prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Florian Métral, je suis docteur en histoire de l'art et l'auteur de l'ouvrage « Figurer la création du monde, mythes, discours et images cosmogoniques dans l'art de la Renaissance » publié en 2019 chez Actes Sud dans la collection « Les apparences » dirigée par Jérémy Koering, ouvrage récompensé en 2020 par le prix Monseigneur Marcel de l'Académie française. Je vais vous présenter rapidement aujourd'hui, dans le cadre de cette émission pour Canal Académie, le propos général de cet ouvrage, sa genèse, les différentes sources que j'ai eu l'occasion de mobiliser, et puis quelques éléments généraux sur les apports de l'ouvrage. Alors cet ouvrage est à l'origine une thèse d'histoire de l'art qui a été conduite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne entre 2010 et 2017 au sein du Centre d'histoire de l'art de la Renaissance sous la direction de Philippe Morel, thèse qui a été soutenue en 2017 et qui par la suite a nécessité une bonne année de réécriture pour aboutir à cet ouvrage publié en 2019. Le propos général de l'ouvrage, c'est de conduire la première étude globale, première étude générale sur l'iconographie de la création du monde dans l'art de la Renaissance, donc en gros de la fin du XVe siècle au début du XVIIe siècle, de manière à essayer de comprendre comment ce thème, comment cette idée des origines a eu un rôle fondamental pour cette époque de la Renaissance. Alors l'origine de ce sujet, il est à la fois très personnel, dans mon cas c'est un intérêt très prononcé pour l'astronomie et l'astrophysique, et puis surtout il rencontre on va dire l'esprit d'une période, l'esprit de cette période qu'est la Renaissance, qui est la première époque dans l'histoire à s'être elle-même définie. Alors définition qui est donnée par ce peintre et écrivain qui est Giorgio Vasari à la fin du XVIe siècle. Renaissance qui se définit notamment par rapport à deux périodes qui la précèdent, ce qu'elle appelle le Moyen-Âge ou l'âge sombre ou l'âge intermédiaire qui est à ses yeux un âge de décadence, et puis l'Antiquité qui précède ce Moyen-Âge, qui est là au contraire voilà, un âge glorieux, un âge idéal avec lequel les humanistes notamment et les individus de la Renaissance essayent de renouer. Alors la Renaissance, elle a une conscience très marquée de son présent, elle conserve aussi une très forte angoisse du futur, hein. On est quand même encore 95% dans le Moyen-Âge, donc aussi la peur de l'Apocalypse. Mais ce qui la distingue, je le disais, c'est cette réflexion tout à fait nouvelle sur les origines, sur les commencements, en essayant de se demander, voilà, à partir de ce célèbre adage, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et à la Renaissance, véritablement, cette question obsède beaucoup de penseurs et irrigue beaucoup de domaines du savoir. La théologie, la philosophie, l'histoire, l'astronomie, la géographie, enfin l'ensemble du monde des sciences, et bien sûr les artistes. Alors quelle vision la Renaissance a des origines? Alors c'est une question à laquelle il est compliqué de répondre de manière univoque. Je ferai un parallèle avec notre époque. C'est aujourd'hui par exemple, on a tendance à croire de manière générale à la conception du Big Bang, mais ça n'empêche pas que tout un tas d'individus restent encore fermement créationnistes, croient en l'intervention d'un dieu. Bah, la Renaissance, c'est un petit peu pareil. Vous avez un récit dominant qui est celui de la Bible, qui est celui du premier texte de la Genèse, hein, Dieu le crée le monde en six jours, mais à côté de ça, eh bien, vous avez tout un ensemble de croyances, de mythes, hérités de l'Antiquité, principalement, parfois hérités du Moyen-Âge, parfois aussi élaborés au cours des 15e et 16e siècles, qui viennent donner comme ça un aperçu un petit peu plus large, une galaxie de référence un petit peu plus complète de cette manière dont on pense les origines. Alors, pour mener cette étude, ce qui m'a avant tout préoccupé, c'était de pouvoir réunir un ensemble assez large de sources, des sources qui permettaient d'avoir une vision qui soit la plus globale de cet imaginaire des origines. Ce n'est pas une vision exhaustive, mais on va dire d'essayer de dégager des grandes, grandes tendances sur la manière dont les individus de cette époque pouvaient penser les commencements. Alors, ces sources, elles sont de plusieurs types. Elles sont littéraires, d'une part. La Bible, bien sûr, je le mentionnais. La mythologie, notamment la théogonie d'Hésiode, les métamorphoses d'Ovide, le De Rerum Natura de Lucrèce. Et puis également des savoirs qu'on qualifiera un petit peu plus tard, au XIXe siècle, d'ésotériques. Notamment l'orphisme, l'hermétisme ou encore la mystique juive de la Kabbale. Et puis des sources historiques également, je le disais, alors tout un ensemble de traités théologiques assez complexes, des ouvrages de géographie, puisque l'une des grandes questions à l'époque, c'est aussi celle des grandes découvertes, la confrontation à un nouveau monde. Une nouvelle conscience de l'espace habitable de la Terre, des ouvrages d'astronomie, des ouvrages d'astrologie qui vont aussi souvent de pair, des chroniques historiques également, hein, des grandes histoires qui relatent en gros tous les phénomènes connus depuis les origines. Donc des sources littéraires, des sources historiques, et puis bien évidemment, ce qui m'a intéressé en premier chef, des sources artistiques. C'est-à-dire d'une part des écrits d'artistes, j'y reviendrai, et puis surtout des œuvres, et un grand nombre d'œuvres, puisqu'on a quand même une iconographie très très large sur ce thème, à commencer par une des œuvres qu'on considère être un des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art occidental, qui est la voûte de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange entre 1508 et 1512, œuvre qui, de manière générale, condense, on va dire, l'ensemble des réflexions qui ont pu être faites sur ce thème depuis la fin du XIXe siècle. Œuvre extrêmement importante, modèle incontournable pour tous les artistes de l'époque, et en même temps, œuvre si importante qu'elle a eu finalement, malgré elle, occulté tout un pan de cette production artistique, notamment des œuvres qui s'en inspirent, mais aussi parfois des œuvres qui n'ont absolument rien à voir, mais qui finalement ont été noyées devant la célébrité de Michel-Ange. Et à commencer par l'image que j'ai choisie pour la couverture du livre, hein, c'est une huile sur mur d'un artiste florentin qui s'appelle Francesco Salviati et qui est en fait un artiste maniériste dans la lignée de Michel-Ange. Pour quelqu'un qui regarde peut-être rapidement la couverture, vous serez peut-être persuadé que c'est Michel-Ange, mais pas du tout. C'est un artiste qui travaille une quarantaine d'années après lui, mais qui est évidemment très fortement marqué par l'exemple du maître toscan. Donc, considérer des œuvres autres que la voûte de la chapelle Sixtine, qui traite de ce thème de la création du monde, c'était aussi l'un des défis de cet ouvrage. Ce qui m'a amené à m'intéresser à des œuvres parfois totalement méconnues, des œuvres aussi anonymes, avec parfois des anecdotes assez drôles. Je penserai tout de suite à une œuvre qu'on appelle la Sixtine de Cori, qui est une petite cité médiévale non loin de Rome, dans laquelle on a une vieille église du milieu du XVIe siècle, dans laquelle on a une voûte qui est inspirée, on va dire, en partie de la voûte du Michel-Ange, et voûte qui est assez inaccessible, pour laquelle j'ai dû en fait attendre toute une journée dans un bar que la tenancière avait eu bien me laisser les clés pour accéder à cette église. Voilà ce qui arrive assez souvent en Italie, mais qui donne évidemment donne un peu des souvenirs un peu drôles auxquels on repense au moment de l'écriture, et qui permet aussi parfois de visiter des œuvres dans des conditions totalement impossibles, souvent, si on prend l'exemple de la chapelle Sixtine, qui est proprement irregardable, étant donné que il y a tellement de monde que ça rend très difficile de l'étudier dans des bonnes conditions. Donc des œuvres, je le disais, extrêmement variées et principalement italiennes, parce que c'est un peu le champ qui m'a occupé, mais qu'on retrouve dans l'ensemble de l'art européen, et c'est là aussi un élément important. On peut penser en Europe du Nord, par exemple, au triptyque des jardins, du triptyque du jardin des Délices de Jérôme Bosch, voilà, qui s'ouvre par une représentation des commencements du monde. On peut penser dans la péninsule ibérique à un artiste comme Francisco de Holanda, un artiste portugais qui a fréquenté Michel-Ange et qui livre lui aussi des représentations de la naissance du monde, mais qui n'ont absolument rien à voir avec les fresques de la chapelle Sixtine. Et puis d'autres œuvres en France, mais également en Europe de l'Est, qui montrent que cette question de l'iconographie de la naissance du monde, c'est véritablement un phénomène européen. Et c'est même, si on insiste un peu, un phénomène mondial, parce que à cette époque, les Européens commencent à avoir une vision un petit peu plus globale du monde, mais il y a déjà tout un tas de civilisations contemporaines de l'Europe de la Renaissance qui ont évidemment des mythes cosmogoniques qu'on découvrira que plus tard et qui ont des représentations visuelles qui les accompagnent, sur lesquelles je ne me suis pas attardé, mais qui sont bien présentes si on se tourne notamment vers le Mexique ou des régions de ce type. Alors, sur toutes ces œuvres que j'ai un petit peu mis au jour, en gros 1000 objets, ce qui est à peu près le tarif réglementaire qu'on trouve dans une thèse, j'en ai gardé un petit peu moins pour le livre, il y a une centaine d'illustrations, mais qui donnent une vision globale, on va dire, des principales orientations de cette iconographie. Ce qui m'a un peu conduit à élaborer un plan, on va dire, en trois grands axes dans ce livre, pour donner un premier aperçu. Trois grandes parties, et une première partie qui s'ouvre notamment sur ce que j'ai appelé cet imaginaire de la création du monde. Imaginaire étant à entendre comme, on va dire, l'ensemble des représentations, et qui s'incarne notamment dans des images qui sont vraiment au cœur de mon propos. Donc, imaginaire de la création du monde qui, à partir de la fin du XVe siècle et jusqu'au premier XVIIe siècle, et comme je le disais, très chrétien. C'est principalement la vision de la Bible qui, aux yeux du christianisme, est un dogme. Et en plus d'être un dogme, est un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui est fondamentalement inaccessible ou incompréhensible, si ce n'est par ceux qui ont le droit d'interpréter les Écritures saintes, c'est-à-dire les théologiens. Et ces théologiens, à commencer par Augustin, saint Thomas d'Aquin, qui sont théologiens du Moyen-Âge, ces théologiens défendent une vision de ce dogme, et notamment le fait que Moïse en est l'auteur, il est l'auteur du livre de la Genèse, donc du récit de la création, que la Trinité compte au rang de ces grands dogmes, et que l'une des manières d'aussi comprendre, cette théologie de la création, c'est de la mettre en pendant avec théologie des fins dernières, c'est-à-dire de l'Apocalypse. On a comme ça, encore à cette époque de la Renaissance, une vision très typologique, c'est-à-dire qu'on fait correspondre les débuts et les fins, parce que le but de la création, d'un point de vue chrétien, c'est pas tellement de réfléchir aux origines, c'est bien plus de se dire qu'il y a un commencement, mais ce commencement est tout entier dirigé vers une fin. Il y a deux principales manières d'aborder cette théologie. C'est une vision très mystique, Dieu créant le monde en six jours, tel que le représente Michel-Ange. Et puis, il y a une autre manière qui émerge aussi beaucoup à la Renaissance, qui est ce qu'on appelle la théologie naturelle, c'est-à-dire comprendre cette création non pas à partir d'un exercice d'imagination, non pas à partir de ce qui pourrait relever d'une vision intérieure, mais bien en observant le monde réel, en observant la nature et en découvrant la beauté, l'ordonnance de cette nature, qui évidemment aux yeux des chrétiens le reflet de la bonté de Dieu. C'est pour ça qu'on a en gros deux types d'images qui se développent, des images, comme je le disais, comme la voûte de la chapelle Sixtine qui met en scène Dieu le Père créant le monde, et puis des images qui mettent en scène davantage la nature créée. Et cette nature créée va, en tout cas ces images de la nature créée, sont le prélude au genre du paysage monde ou du paysage cosmique qui va après considérablement se développer à la fin du XVIe siècle, puis au XVIIe siècle, hein, qui devient véritablement un genre à part entière, après avec des artistes comme Jan Brueghel, et qui se met en place justement pendant la Renaissance. Dans cette première grande partie de l'imaginaire de la création, j'ai également abordé des choses qui touchaient aux fables, et on va dire une approche plus syncrétique de cette création, c'est-à-dire la manière dont le christianisme a finalement, bon gré mal gré, dû intégrer ou partager la vedette avec des récits issus de la mythologie ou issus de croyances païennes ou de croyances juives relues par le christianisme, notamment par exemple le chaos d'Hésiode ou le chaos d'Ovide, hein, qui fait référence à cet état complètement indéterminé du monde à ses origines, la théorie des quatre éléments. Une figure comme Phanès, qui est un dieu solaire issu de l'orphisme, hein, que fait notamment représenter Côme Ier de Médicis dans le palais vieux de Florence au milieu du XVIe siècle. La castration d'Uranus par Saturne, que les Médicis font aussi représenter par Giorgio Vasari au palais vieux de Florence. Enfin, tout un ensemble d'images extrêmement étonnantes qui offrent un regard très différent sur ses origines, en tout cas très différent de celui du christianisme. Et que certains, on va dire, théologiens ou certains penseurs chrétiens essayent d'intégrer dans cette vision des origines en disant, pour résumer, que finalement cette philosophie antique, cette mythologie païenne, elle n'est finalement qu'une dégradation du message chrétien, puisque Moïse précède Platon, précède tous les grands penseurs. Et que la meilleure manière de contrer les hérésies est bien d'intégrer ces mythologies païennes dans le christianisme et non pas de les mettre à distance. Voilà, ça c'est une tendance qui est très très présente dans la Rome du début du XVIe siècle et puis qui par la suite sera complètement mis à l'écart, d'abord par les protestants et puis à la fin par la réforme, voilà, contre-réforme comme on l'appelle, des catholiques à la fin du XVIe siècle. Pour finalement rejeter toutes ces visions un petit peu dissidentes ou alternatives aux marges du christianisme. Et puis un dernier aspect de cet imaginaire de la création du monde, c'est la question des sciences, je le disais, des savoirs qui sont extrêmement importants pour cette époque de la Renaissance. C'est une époque, je le disais, des grandes découvertes, hein, la découverte de l'Amérique notamment. Et cette découverte entraîne une vision du monde qui change, et notamment la découverte de peuples qui sont littéralement restés en dehors de la révélation chrétienne, et puis la découverte aussi de terres habitables, des terres qu'on ignorait, et qui du coup bouleversent l'image du monde telle qu'on l'avait en gros depuis les débuts du christianisme, on va dire surtout depuis Ptolémée, la fin de l'Antiquité. À quoi s'ajoute peu à peu au fil du XVIe siècle la révolution copernicienne que poursuivra des astronomes comme Kepler ou Copernic et qui là, eux, de leur côté, bouleversent, on va dire, la vision du cosmos et notamment la question de la centralité de la Terre, hein, du géocentrisme au profit de l'héliocentrisme, hein, donc d'un système des planètes qui est organisé autour du Soleil. Alors, tout ça n'a pas des implications, on va dire, des conséquences directes pendant la Renaissance, mais c'est bien à cette époque que voilà, ces révolutions ont lieu et elles se feront davantage sentir après au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais déjà, les images en portent certaines traces et c'était finalement ça aussi qui était intéressant de mettre en évidence, c'est-à-dire comment toutes ces œuvres d'art sont... bien sûr des objets religieux d'une certaine manière puisqu'elles sont inspirées d'un texte chrétien, mais elles sont aussi des objets de savoir, c'est des objets de savoir sur les sciences et aussi des objets de savoir sur l'art lui-même. Après cette première grande partie, une deuxième grande partie dans l'ouvrage qui est consacrée, on va dire, à la voûte de la chapelle Sixtine de Michel-Ange qui est véritablement l'œuvre centrale de cette période. Avec cette idée, comme je le disais, de mieux mesurer sa place, parce qu'on a eu tendance à en faire vraiment un chef-d'œuvre absolu qui a occulté un grand, grand pan de la production de l'époque. Voilà, l'idée pour moi, c'était un peu de la remettre à sa place, non pas nier son importance, puisqu'elle est capitale, mais de bien comprendre qu'elle s'insère dans tout un ensemble de productions qui, en fait, ont été commandées principalement par des élites ecclésiastiques de l'époque, et notamment des cardinaux, plus spécialement des grands cardinaux et surtout des papes. On a affaire avec cette iconographie de la création du monde, en fait, à une iconographie qui est foncièrement une iconographie papale, hein, c'est-à-dire qu'elle sert pour les papes à faire la démonstration de leur pouvoir et surtout à montrer que leur pouvoir s'inscrit dans une généalogie qui, en gros, si on dresse quelques étapes, vont jusqu'à Saint-Pierre et puis remontent comme ça jusqu'à Moïse et idéalement jusqu'à Dieu. Donc l'idée dans cette deuxième partie, c'était de travailler autour d'œuvres qui s'intéressaient au mécénat des papes et plus spécifiquement à Rome, puisque Rome à cette époque a un statut un petit peu particulier. On dit d'elle qu'elle est évidemment une caput mundi, c'est-à-dire la capitale du monde, et qu'elle est fondamentalement le centre symbolique de la création du monde, tout du moins d'un point de vue chrétien. Et puis, une dernière grande partie dans l'ouvrage qui, elle, est plus spécifiquement dédiée aux artistes et à la manière dont, à cette époque, ils commencent à penser leur art, c'est-à-dire la question de la relation entre la création du monde et la création artistique, et notamment sur ce terme de création artistique, qui est un terme forgé à cette époque-là par les artistes, que les artistes commencent à employer pour justement mettre en évidence le caractère intellectuel et prestigieux de leur art. Et ce qui m'intéressait ici notamment, c'est de revenir sur l'histoire de la conception du Deus Artifex, hein, le dieu artisan, qui est cette image employée par beaucoup de mythes de création du monde, notamment dans le christianisme, pour expliquer finalement comment Dieu ou le démiurge a façonné le monde. Eh bien, il a façonné le monde comme on compose une œuvre d'art, c'est-à-dire en usant de matière, en usant de couleurs, en usant de lignes et en agençant ces formes de sorte à composer une image. Eh bien, les artistes, lorsqu'ils pensent leur art, vont le penser à l'image de cette création du monde et de plus en plus vont intégrer dans leur tableau. Je pense notamment à des artistes comme Michel-Ange, évidemment, mais on peut citer Goltzius, Tintoret, Véronèse ou d'autres, vont intégrer des motifs qui font précisément écho à cette conception démiurgique du monde, hein, c'est-à-dire cette idée que Dieu est un artiste et qu'en retour, l'artiste est quasiment divin. Donc voilà comment se présente un petit peu cet ouvrage et pour donner quelques petits mots de conclusion, ce qui m'a intéressé vraiment ici, c'est de montrer que cette question de la création, en fait, et de la création du monde, des mythes cosmogoniques, elle est vraiment au fondement de la Renaissance et que la Renaissance, de cette manière, est aussi au fondement de la modernité, puisque cette question des origines n'a cessé par la suite d'alimenter la réflexion jusqu'à nos jours. Hein. On continue à réfléchir évidemment sur les origines. Alors aujourd'hui, c'est plus la religion, c'est davantage la science, c'est davantage l'astrophysique, mais toujours est-il que cette question des origines demeure. Et puis, ce deuxième grand aspect qui est cette question artistique hein, de l'art comme finalement fabrique de monde, hein, c'est aussi une question qu'on retrouve encore beaucoup dans l'art contemporain. Finalement, l'idée que l'artiste, lorsqu'il compose une œuvre, eh bien, cette œuvre est en quelque sorte comparable à un mini-monde, on pourrait l'appeler un microcosme, hein, hein, qui est offert au spectateur, libre à lui après de se plonger dans cette image et après de bâtir ses propres histoires. Tout cela s'insérant dans une histoire de la créativité hein, dont on est encore évidemment les héritiers. Voilà, et je terminerai simplement en disant quelques remerciements évidemment à l'Académie française. Je suis très honoré d'avoir reçu ce prix Monseigneur Marcel et puis des remerciements au CNL, à l'école doctorale 441 de Paris 1 et au centre André Chastel qui ont appuyé financièrement la publication de cet ouvrage. Merci beaucoup.